Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Eliott Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est le dernier jour de notre série sur l'économie de la guerre. Aujourd'hui, nous désertons les champs de bataille pour penser les plaies et penser l'après. Comment rebâtir une économie éreintée par des années de conflits ? La science économique offre peu de réponses, considérant la guerre comme une parenthèse dans le processus de développement. Les organisations internationales, elles, ont injecté des milliards de dollars en Bosnie, en RDC ou encore en Afghanistan, sans obtenir les résultats espérés. Alors comment recréer une paix et une prospérité durable ? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de l'économie de la reconstruction en compagnie d'Hervé Hutin, docteur en économie, enseignant à l'université de Savoie, et de Ving Denalet-Okila, docteur en droit, chargé d'enseignement à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Hervé Hutin et Ving Denalet-Okila.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour ce dernier épisode de notre série consacrée à l'économie sur les champs de bataille, est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots, Hervé Hutin, les liens qu'entretient la discipline économique avec cette question de la guerre et de l'après-guerre ?
Eh bien, c'est que le cadre de pensée, disons, dominant, qui est celui de la théorie néoclassique, est relativement inadapté pour penser la guerre, l'économie de guerre et la sortie du conflit, alors que d'autres cadres semblent beaucoup plus pertinents, s'avèrent beaucoup plus pertinents, comme notamment celui de l'économie politique ou celui de l'économie institutionnelle.
En quoi est-ce qu'ils sont plus pertinents ?
Eh bien parce que on va intégrer dans les approches, le fait qu'on a des groupes d'intérêts qui sont très divergents, alors que qui sont très différents. Alors que la théorie néoclassique suppose qu'on a affaire à un homo economicus qui se comporte de façon rationnelle et informée, par ailleurs, on doit prendre en compte un certain nombre d'éléments, comme par exemple la confiance qui s'est énormément érodée, notamment dans des guerres civiles, et qui ne sont complètement absentes comme paramètres dans la théorie néoclassique.
Il a fallu donc dépasser la théorie néoclassique. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que la reconstruction et la consolidation de l'économie sont d'autant plus importantes donc dans cet après-conflit que c'est aussi un moyen de garantir une paix durable, Ving Denalet-Okila.
Oui, effectivement, la reconstruction c'est l'une des manières les plus sûres de garantir la consolidation de la paix. Parce que vous savez, le conflit en lui-même, il a plusieurs causes, comme évoqué tout à l'heure par Monsieur Hutin. Et parmi ces causes, il y a les causes économiques. L'exploitation illégale des ressources naturelles, le pétrole, le bois, le diamant. Toutes ces causes-là sont généralement à l'origine des conflits armés. Et lorsque le conflit prend fin, l'économie de guerre persiste. Donc, pour pouvoir mettre en place une paix durable, il est important de s'intéresser justement aux questions économiques.
Et alors, ce qui frappe lorsqu'on s'intéresse à la reconstruction, c'est la différence entre les montants alloués à cette reconstruction, Hervé Hutin, et l'efficacité de ces programmes. C'est un peu ce que l'histoire nous montre.
Oui, effectivement, il y a des montants très importants qui ont été dépensés par, entre guillemets, la communauté internationale. On va employer ce terme de façon pratique. Et les résultats, en fait, sont assez difficiles à interpréter et souvent, en fait, assez décevants. Par exemple, si on prend pour la Bosnie-Herzégovine, on est resté longtemps à un taux de chômage qui était supérieur à 40%. Pareil pour le Kosovo, plus de 10 ans après. Aujourd'hui, on est à 30% dans ces deux pays, alors qu'on a englouti quand même des sommes extrêmement importantes. Quand on regarde après l'Irak, l'Afghanistan, la République centrafricaine, tous les accords de paix qui ont pu être signés, qui ensuite ont été suivis par des désordres et des résultats apparemment négatifs. En fait, si on regarde bien, il y a aussi des choses qui évoluent positivement.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les résultats de ces programmes de reconstruction sont souvent très difficiles à interpréter.
Exactement. parce que il suffit que dans un pays plusieurs attentats ou attaques de groupes armés qui se reconstituent sèment en fait la zizanie pour que on pense que l'ensemble du pays rechavire dans la guerre. C'est pas tout à fait ça. Il faut considérer les choses après cas par cas, région par région, et voir par exemple, je sais pas, sur la scolarité, la scolarisation en Afghanistan, on peut trouver que 50% aujourd'hui des 7-17 ans qui sont scolarisés, c'est un chiffre de l'UNICEF. Certes, 50%, ce n'est pas un bon score, mais il faut voir que on était à 1 million d'élèves scolarisés en 2002, alors qu'aujourd'hui, on est à plus de 7 millions. Donc, en fait, le progrès, il est gigantesque, en fait.
Et malgré tout, on manque souvent de données chiffrées qui nous permettraient d'avoir un regard sur l'efficacité de ces programmes de reconstruction et l'efficacité de ces milliers de projets qui ne forment pas forcément un ensemble cohérent, Ving Denaleokila.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, longtemps, le problème de la reconstruction a été l'inadaptation des programmes mis en place. Les économistes et les juristes d'ailleurs, et même les politologues, ont longtemps pensé que la reconstruction économique, en fait, c'était une autre forme de développement économique. Or, ce n'est pas le cas. Le contexte post-conflit pose d'autres difficultés, d'autres problèmes qu'il faut nécessairement prendre en compte pour pouvoir donner une réponse adaptée à la situation de la reconstruction.
Lesquelles, par exemple ?
Alors, il y a la question, par exemple, de la... Aujourd'hui, c'est pris en compte, mais il y a... Au début des années 90, c'était une question qui n'était pas encore au devant de l'agenda international. La démobilisation, le désarmement, la réinsertion des anciens combattants. Il y a la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles qui n'est rentrée au sein de l'agenda du Conseil de sécurité comme les années 95, avec les conflits en RDC, les conflits au Libéria, en Sierra Leone. Donc toutes ces questions, lorsqu'elles ne sont pas prises en compte, dans le cadre de la reconstruction économique, constitue un frein justement à l'efficacité du processus.
C'est intéressant ce que dit Steven Denaleokila, que l'après-conflit, ce n'est pas une simple continuation du développement. On ne peut pas penser le développement d'un pays après la guerre de la même façon qu'avant, Hervé Hutin.
Oui, tout à fait. Et sur l'aspect en fait de la reconstruction économique, je pense qu'il faut dire d'emblée qu'il est nécessaire d'avoir une approche globale d'une société donc qui sort d'un traumatisme énorme qu'est la guerre. Et par conséquent, en fait, il faut bien voir que cette reconstruction, elle doit être menée de façon de pair avec un certain nombre d'autres piliers de la paix. On peut en identifier 5, la reconstruction économique, la réconciliation politique, la recomposition de l'État et des services publics, l'accès aux droits pour les populations et en fait un pilier qui est vraiment central, la sécurité. Si on n'a pas simultanément ces 5 piliers qui sont nécessaires et interdépendants, eh bien en fait... le processus est voué à l'échec tôt ou tard.
Je parlais de la question du développement, puisque pendant longtemps, en matière de reconstruction, c'est le plan Marshall qui a été la référence. Or, effectivement, on ne parle pas de la même chose selon qu'on parle d'économie industrialisée ou d'économie justement en développement, Hervé Hutin.
Tout à fait. Alors après, dans le plan Marshall, effectivement, le plan Marshall est un plan qui se déroule dans des États qui sont forts, structurés, dans des pays industrialisés où il y a toutes les compétences. Et il s'agit d'un plan qui est reconstruit après un conflit international. Ici, la plupart, 90% des conflits actuels depuis la fin de la guerre froide sont des conflits civils, donc qui traversent la société civile et qui se déroulent dans des États fragiles, avec une persistance des tensions après la fin du conflit. Alors que dans un conflit comme celui de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin, au moment de l'armistice, en fait, la paix revient assez rapidement dans chacun des pays qui ont été belligérants.
Je vous propose justement d'écouter une archivina de 1952.
Il y a 7 ans, l'Allemagne hitlérienne était écrasée. Près du quart de la France offrait ce spectacle. 500 000 de ses enfants étaient tués. 2 000 000 sortaient des camps. Mais la victoire des Alliés emplissait le pays d'un immense espoir. Cependant, le ravitaillement, les impôts, la course salaire-prix, la situation internationale, le sang qui continue à couler, amenèrent sur trop de lèvres une question terrible. Où est la victoire ? Les dépenses militaires, explique-t-elle, qu'en face du déversoir de milliards représenté par les impôts, les emprunts, l'aide américaine, le Français soit à la fin de chaque mois à la recherche des billets de banque qui lui manquent. Cet argent, où est-il? Il fallait reconstruire la France. Il fallait, comme à Marseille, respecter les données locales tout en tenant compte des nécessités de l'urbanisme. Il fallait dépenser 2500 milliards pour restaurer ou édifier 2 400 000 bâtiments.
2 400 000 bâtiments, Hervé Hutin, contrairement à ce que l'on pense parfois, le plan Marshall n'a pas été mis en place dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faudrait pas le confondre avec l'aide américaine qui, elle, est intervenue dès le milieu de la guerre.
Oui, tout à fait, oui. Le plan Marshall n'intervient qu'à partir enfin, de 1947, il entre vraiment en vigueur en 1948 et les années suivantes. Alors, il constitue un mythe, et alors, on l'a bien entendu dans cette archive, c'est le mythe de la reconstruction qui se limite à, en fait, on reconstruit des immeubles, des logements, et finalement, en fait, on fait croire que l'aide serait quelque chose qui est purement technique et qui se mesure en kilomètres de routes restaurées et de logements édifiés.
Alors qu'en réalité, il s'agit d'une nouvelle méthode et d'une méthode originale.
Alors, d'abord, c'est beaucoup plus large que ça, la reconstruction, y compris économique. Et puis, en même temps, alors il y a une méthode, par contre, qui a été intéressante dans le plan Marshall. Alors, au-delà des intérêts géopolitiques de l'aide Marshall donnée par les États-Unis, le plan Marshall, en fait, donnait la possibilité aux entreprises de disposer de devises qui permettait donc de procéder à des importations pour tout ce qui manquait en France du fait des pénuries en approvisionnement. Et par conséquent, les entreprises françaises qui voulaient importer quelque chose avaient une réserve en dollars, versaient la contre-valeur en francs sur un compte du Trésor et obtenaient donc les importations demandées. Alors évidemment, ça servait immédiatement l'industrie américaine, on le comprend, mais enfin, ça servait aussi l'industrie française. Mmh. Et ce fonds du Trésor, ensuite, était administré par le gouvernement français. Après visa, évidemment, des autorités américaines. Mais enfin, c'était les Américains faisaient confiance aux autorités italiennes, françaises, allemandes, etc. Enfin, anglaises, pour superviser ces fonds qui avaient été donnés.
Et l'originalité, c'était peut-être aussi de mettre en place une aide qui était globale et qui n'était pas forcément pays par pays pour développer ces flux commerciaux intra-européens.
Voilà, donc avec une vision régionale, effectivement, intra-européenne. Ce qui diffère en fait de l'aide aujourd'hui, où il n'y a pas de constitution de fonds avec un gouvernement qui va la superviser. L'aide est souvent gérée par des administrations qui se mettent en place, qui sont quasiment des administrations de substitution. Alors, le phénomène est plus ou moins prononcé selon les cas. Et par conséquent, en fait, ça n'a rien à voir avec le plan Marshall. Donc, non seulement le contexte est complètement différent. Aujourd'hui, État fragile et conflit civil. Hier, État fort après un conflit international et des méthodes qui sont complètement différentes. Donc on a tout raté. On pense qu'on va obtenir la paix avec des kilomètres de route. C'est faux. Ça y contribue, mais ce n'est pas la seule chose.
Et avant de voir si éventuellement on peut s'inspirer au moins d'une partie du plan Marshall pour aider à la reconstruction d'un certain nombre de pays aujourd'hui, il y a aussi et d'abord un débat sur le redressement économique européen et sur ses liens avec le plan Marshall. Est-ce que vraiment il est dû au plan Marshall, ce redressement économique européen? On a un débat qui subsiste parmi les économistes.
Oui, effectivement, certains économistes allemands notamment disent que la reprise en Allemagne et les facteurs déterminant cette reprise avaient commencé dès avant le plan Marshall lui-même. Néanmoins, on peut faire aussi une comparaison entre ce qui s'est passé, notamment l'attitude des Alliés par rapport à l'Allemagne, par rapport aux vaincus en 1945 et la suite, et par rapport à 1919, c'est que en coupant les capacités d'épargne et de reconstruction, comme on l'a fait avec le traité de Versailles, on a précipité l'Allemagne dans une impasse, alors que en 1945 et 47, 48, on a fait le contraire. Mmh. Et donc le résultat est quand même là. Il y a quand même une grande leçon sur l'importance de l'épargne, des capacités financières, le rôle déterminant que ça peut jouer, même si ça n'est pas suffisant.
Et ça pose aussi la question des indicateurs à prendre en compte. Est-ce qu'il suffit, par exemple, de retrouver le PIB que l'on avait avant la guerre pour estimer que ce redressement de l'économie est achevé? En réalité, il y a d'autres indicateurs, Hervé Hutin.
Oui, parce que le PIB que l'on avait avant la guerre, c'est l'état de l'économie qui, justement, a précipité l'économie dans le conflit. Je veux parler aujourd'hui des conflits que nous avons avec des états fragiles. Donc le niveau de richesse préalable au conflit, c'est celui qui a, entre autres, contribué au conflit.
Et puis il y a aussi le fait que, par exemple, le Royaume-Uni avait retrouvé une production industrielle retrouvait ses niveaux d'avant la guerre. Et en réalité, l'endettement était extrêmement important. Donc son économie était fragilisée par d'autres facteurs.
Oui, tout à fait. Donc l'endettement, la monnaie, l'inflation, alors qui a aussi gommé certains problèmes, l'inflation, notamment celui de l'endettement. Mais par contre, pas celui de l'endettement international.
Difficile de plaquer, entre guillemets, le plan Marshall sur les situations actuelles, Vigdenel et Okila, notamment parce que la difficulté n'est pas la même selon qu'on parle d'un conflit interétatique ou d'une guerre au sein d'un État, comme le disait Hervé.
Effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire. La reconstruction économique sur la base du plan Marshall était, on va dire, plutôt rudimentaire ou plutôt simple. Les États européens n'étaient pas confrontés aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, il y avait certainement l'économie à relancer, mais il n'y avait pas de problème politique, pas de problème de stabilité nationale, pas de problème de sécurité. Donc, ce qui faisait que le plan Marshall mettait l'accent sur la reconstruction des infrastructures physiques et des services, la relance économique, mais il ne s'occupait pas des questions connexes à la reconstruction économique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des questions beaucoup plus vastes qui demandent donc une approche plutôt globale du processus. Et en cela, la reconstruction économique aujourd'hui, pour essayer d'en donner une définition simple, c'est non seulement prendre en compte la réhabilitation des infrastructures physiques et des services, mais également redynamiser l'économie locale, redynamiser l'économie locale, mettre en place une économie dynamique, saine et inclusive.
Alors comment est-ce qu'on passe justement d'une économie de guerre telle qu'on a pu la décrire hier à une économie de paix, exemple en Irak ?
Ma famille habitait ici depuis 7 générations. La cavoutée que vous apercevez en dessous des décombres, juste là, avait plus de 600 ans. Bombarder le quartier était la pire des solutions pour nous libérer. Tous les civils étaient coincés ici avec Daesh. Des djihadistes étaient cachés dans cette rue, mais au lieu d'envoyer des soldats pour les tuer, ils ont préféré tout raser. La vie ne reviendra jamais dans la vieille ville de Mossoul. Il n'y a plus d'hôpitaux, plus d'écoles, tout est détruit. Il n'y a pas de services publics, aucune aide, pas de travail. Les seules personnes qui reviennent vivre ici sont les plus pauvres, car elles n'ont nulle part où aller.
Un reportage réalisé à Mossoul, en Irak, par nos confrères de France Inter. C'était au mois de juillet, 2 ans après la libération de la ville. Quel bilan économique est-ce qu'on peut établir au sortir de la guerre, Vink Donaleokila? Quel état des lieux de l'offre et de la demande? Qu'est-ce qu'on constate en général?
En Irak.
Alors en Irak en particulier, mais plus généralement, qu'est-ce qu'on constate en termes d'offres déstructurées et de demandes insuffisantes?
Oui, il faut dire que au lendemain des conflits, les destructions sont importantes. Elles sont importantes et elles touchent quasiment tous les pans de l'économie. Ainsi, nous avons par exemple en Syrie, à l'heure actuelle, les destructions importantes dans les quartiers de Alep, de Raqqa. Nous avons également des destructions qui portent sur les infrastructures, notamment l'adduction d'eau. Nous avons en Irak des secteurs importants qui ont été dévastés, notamment le logement, l'approvisionnement en électricité, l'industrie, le commerce.
On voit qu'il y a énormément de pans de l'économie qui sont touchés. Hervé Hutin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur un plan purement économique, sur ce qui empêche l'économie de se restructurer au lendemain du conflit?
Alors on se trouve dans un état que j'ai qualifié de suffocation économique, dans la mesure où en fait l'économie étouffe littéralement. C'est la conjonction en fait de déficit. Alors il y a désaccumulation, si vous me permettez ce mot, du capital, plus retard technologique pendant tout le conflit, plus perte de compétences, d'où globalement une perte de compétitivité de tout ce qui est produit sur le sol national. Cette perte de compétitivité aggrave un déficit commercial qui, couplé au déficit public, il n'y a plus de recettes et les dépenses explosent, eh bien se traduit par un accroissement de l'endettement qui est déjà à des niveaux records. Donc vous ajoutez à cela la fuite des capitaux qui va, selon des études de la Banque mondiale, continuer pendant 10 ans en général, en moyenne, ce sont des moyennes après la fin du conflit, la fuite des cerveaux, Et donc, plus éventuellement le phénomène d'inflation, voire d'hyperinflation, avec une dépréciation de la monnaie, tout cela donc fait qu'il est quasiment impossible à l'économie de se relever seule, d'où la nécessité d'une aide extérieure.
Avec effectivement la difficulté et le manque de main-d'œuvre lié au fait qu'énormément de gens ont fui souvent les conflits et que le retour est extrêmement long et compliqué.
Alors, il y a un phénomène qui a été noté qui est l'inertie au retour des réfugiés et déplacés. Moi, j'ai fait une étude économétrique qui permet d'établir effectivement le lien avec l'environnement de sécurité et les perspectives économiques, mais c'est assez évident, dirons-nous. Ce lien fait que donc les réfugiés peuvent mettre plusieurs années avant de rentrer, et voir la situation tendue fait que on peut avoir des populations qui fuient encore le pays après la fin du conflit. On l'a observé dans plusieurs contextes.
Et c'est là qu'on a besoin effectivement d'une aide extérieure et notamment de l'aide d'un certain nombre d'organisations internationales. On va y revenir, mais par exemple, cela peut passer par la mise en place d'une politique industrielle. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement qui a particulièrement manqué en Afghanistan. C'est ce qu'on dit un certain nombre d'acteurs, sans compter qu'en Afghanistan, on est en quelque sorte dans un état de guerre permanent, puisqu'on a des offensives régulières des talibans. Hervé Hutin.
Alors, politique industrielle en Afghanistan, il faut voir que l'Afghanistan était dès avant un pays extrêmement peu industrialisé. Mais on constate effectivement ce manque de main-d'œuvre, dans les systèmes productifs locaux, l'absence de métiers qui font que dans un village, on est dans une économie essentiellement rurale. Eh bien, il manque des compétences qui font que il n'y a pas de forgerons, il n'y a pas de vétérinaires, il n'y a pas de etc.
Puis le peu d'industrie qu'il y avait, l'industrie textile par exemple, s'est effondré.
Effectivement, se sont effondrés.
Ce qui pèse extrêmement lourd sur le pays, les importations de la plupart des biens manufacturés.
Exactement. Donc c'est le déficit commercial dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'on a des importations incompressibles. On n'a aucune devise pour les payer. On n'a pratiquement rien à exporter. Alors d'où la mise en place aussi d'une économie parfois mafieuse, illicite, comme justement en Afghanistan, la culture du pavot et de tous ses dérivés.
On retrouve ces mêmes difficultés sur la destruction d'un tissu industriel naissant en Irak ou en Syrie, Vingden Aleokila.
Oui, ces caractéristiques se retrouvent également dans quasiment la majorité des pays à l'heure actuelle qui ont fait l'objet de reconstruction. Le tissu économique est complètement détruit et il faut le remettre en place. Donc pour cela, il faut prendre des mesures d'envergure, des mesures économiques audacieuses. Alors, dans certains cas de figure, ces mesures ont porté, se sont orientées vers la libéralisation des marchés. Et ça n'a pas plu à certains...
Vous pensez à un pays en particulier ?
L'Irak, par exemple. L'Irak, à l'issue de l'invasion et de l'occupation anglo-américaine en 2003, a été reconstruite par l'autorité prévisoire de la coalition, un organisme ad hoc qui regroupait... les Anglais et les Américains principalement. Et cet organisme avait donc le pouvoir, en tant que puissance occupante, de, si vous voulez, reconstruire l'Irak en se fondant sur les mandats mis en place par le Conseil de sécurité. Et dans ce cadre, cette autorité a adopté des mesures liberticides, on pourrait dire. Des mesures
dans quel sens ?
Alors, par exemple, prenons un cas concret, c'est l'ordonnance numéro 39 qui porte sur le droit des investissements directs étrangers. Cette ordonnance a eu pour conséquence de supprimer l'ensemble du droit des investissements directs étrangers préexistants et de le remplacer par des règles radicalement nouvelles. Ces règles ont eu pour conséquence de ôter toutes les obstacles, ou presque toutes les obstacles, aux investissements directs étrangers.
À qui ça a largement plus profité qu'aux investisseurs locaux qui avaient besoin de se développer.
Effectivement. Et dans ce cas de figure, ils ont mis en place des règles qui sont, si vous voulez, excessives dans la mesure où même les États développés ne les appliquez pas. Je prends un cas simple, c'est celui par exemple du mécanisme de sélection des investissements. dans les directives de la Banque mondiale, il est dit qu'un État a le droit de mettre en place un mécanisme qui permet de sélectionner les investissements qui auront lieu sur son territoire. Or, en Irak, l'autorité provisoire de la coalition a supprimé, ou plutôt n'a pas prévu cet organisme, ce qui fait que tout type d'investissement est possible. Il n'y a aucun autre État du monde qui le fait.
Alors, il y a des investissements, effectivement, qui bénéficient davantage à l'économie réelle et au quotidien des habitants. Là, c'est un cas de figure particulièrement négatif que vous évoquez, Vigdon Alaoukila. On peut, à l'inverse, évoquer un cas où les négociations avec les partenaires économiques et les entreprises étrangères se sont soldées par des bénéfices pour le pays en question. Je pense en particulier au gouverneur de la province du Katanga en RDC, lui qui a réussi à négocier de telle sorte qu'il n'y ait pas d'exportation de minerais, qu'il y ait de la transformation sur place afin d'avoir de la valeur ajoutée.
Oui, évidemment, dans certains cas de figure, les mesures positives sont adoptées. Là, vous avez cité le cas de la RDC, mais c'est aussi le cas en Sierra Leone, c'est aussi le cas au Soudan, hein, avant la partition entre le Sud-Soudan et le Soudan, où justement il y a eu des accords de partage de richesses entre les autorités centrales et certaines provinces, de telle sorte que la production des richesses puisse profiter à la fois au pouvoir central, mais aussi aux provinces.
Et c'est là qu'on a besoin d'un pouvoir central étatique suffisamment fort, Hervé Hutin, pour pouvoir négocier avec des entreprises étrangères qui peuvent arriver en position de force.
Oui, le problème, effectivement, c'est celui pour ce type d'État fragile, qu'il était déjà, donc avant que le conflit se déclenche, je parle des guerres civiles, qui peuvent être pour certaines d'entre elles internationalisées, le Yémen aujourd'hui par exemple. Le problème, c'est les sous-capacités institutionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, l'État ne dispose pas à la fois de compétences et de personnel et de moyens financiers nécessaires pour pouvoir administrer l'aide qui arrive, pour pouvoir donner des règlements qui permettent aux agents économiques de se mettre en route.
Vous parlez de pouvoir exécutif local, comme dans le cas par exemple de la RDC, qui est un pays gigantesque dans lequel il a fallu que le gouverneur d'une province intervienne.
Oui, par exemple, il peut y avoir des très bonnes initiatives locales, effectivement. Après, là, vous parlez peut-être d'un problème d'articulation au niveau entre l'État et ses représentations sur le territoire. Mais la maîtrise du territoire est un des problèmes à l'origine de beaucoup de guerres civiles. C'est un problème soit lié à des discriminations sur des régions, soit lié à des mouvements guérilla qui naissent en réclamant une autonomie, voire une sécession.
Il y a en tout cas la question de l'industrie, mais il y a évidemment la question agricole également. Oui,
l'industrie ou l'artisanat, puisque tout à l'heure on parlait de l'Afghanistan, mais dans beaucoup de ces pays, en fait, qui sont des pays en général peu développés, ne généralisons pas, mais l'Afghanistan, par exemple, vous avez donc des trous productifs dans les systèmes de production locaux, avec au niveau de l'artisanat et des petites fabriques, des petites unités de production qui ne sont pas nécessairement industrielles, qui ne sont pas nécessairement au stade industriel. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut bien, là, je me permets d'insister là-dessus, c'est que même si on peut doter, en fait, ces petits artisans d'équipements, redonner par crédit ou par don des charrues aux paysans et du cheptel, etc. Il y a quand même une chose qui manquera. Il faut justement aller au-delà de du problème matériel. C'est les capacités d'initiative qui ont été brisées par la guerre, et notamment l'étude qu'ont fait Miller et Rasmussen, qui montre. Alors c'est une étude qui a été faite sur l'Afghanistan, le Tchad, le Sri Lanka, le Liban et Gaza, et qui montre que des facteurs de stress quotidien dus à la vulnérabilité, la promiscuité, la marginalisation, les situations familiales peuvent faire naître ce qu'ils appellent un stress quotidien potentiellement traumatique. À ne pas confondre avec le stress post-traumatique lorsqu'on a subi des violences en direct, mais un stress quotidien qui est issu indirectement du conflit et qui casse les capacités d'initiative de résilience.
Il s'agit aussi de recréer la confiance pour permettre confiance. Aux entrepreneurs de lancer éventuellement des projets. On va continuer à en parler dans un instant.
Thank you. voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, 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 hourra. Et dans l'armée le clair, je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire. J'ai jeté mon chapeau dans le panier, mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi le casque en acier. Et quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip, 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 en criant hip, 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 hourra. En passant par les Champs-Élysées, toutes les filles nous ont couvert de baisers. Et Paris s'était mis sa robe la plus jolie, le bleu blanc rouge. Et pour nous fêtes, la tour Eiffel nous disait allô, en enlevant pour saluer son drapeau. Un petit monsieur barbu, monté sur une statue, m'a crié, hein, on les a eus. J'ai changé ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, 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 hourra. Et dans la paix le clair, je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire. J'ai jeté mon chapeau dans le panier, mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi le casque en acier. Et quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip, 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 en criant hip, 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 hourra.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
L'économiste Hervé Hutin et le juriste Vindenaleo Kila sont toujours avec nous pour parler de la reconstruction économique à l'issue des conflits. Alors on a parlé de l'industrie, mais l'un des enjeux au lendemain du conflit, c'est aussi bien sûr de relancer l'agriculture. Or les exploitations agricoles ont parfois subi de graves dommages, on l'a constaté par exemple en Centrafrique, Hervé Hutin.
Alors oui... On a, alors, je parlais tout à l'heure de la violence et des traumatismes. Pour une enquête que j'ai faite pour le PNUD à Bossongoa, donc dans le nord de la Centrafrique, on avait constaté auprès de plus de 420 ménages, un échantillon représentatif de la préfecture, que 88% des personnes avaient, enfin des familles, avaient subi des violences, alors de quel ordre que ce soit. Et que 92% en fait avaient été pillés. C'est incroyable pour le peu que ces paysans, ces villageois avaient chez eux. Les combattants sont passés avec des camions et ont tout pris pour une radia qu'ils ont réexportée vers le Cameroun et surtout vers le Tchad.
Ils étaient déjà très pauvres, ils ont été encore davantage appauvris.
Donc ils ont très peu de choses et là ils n'ont quasiment plus rien. Donc l'outil, en tout moment ils sont traumatisés par la violence, mais leur outil productif a été confisqué. Petite parenthèse, dans le cas des guerres civiles, même si on ne vient pas vous piller votre charrue ou prendre vos bœufs pour les transformer en brochettes, les stratégies, disons, de survie en cas de conflit qui dure font que on va commencer par prendre sur ses liquidités pour acheter de la nourriture qu'on ne peut plus produire, puis ensuite passer à la collecte de nourriture sauvage, puis ensuite on va commencer par vendre ses biens non productifs, ses actifs non productifs, ses meubles, etc. Et puis ensuite on va terminer par les outils productifs et après il n'y aura plus qu'une seule chose à faire, c'est de partir.
Il y a aussi un enjeu de déminage, par exemple, d'un certain nombre de terrains en Angola. L'Angola qui a quand même connu une guerre civile qui a duré 27 ans, qui s'est terminée en 2002. Et donc, 2002, ça fait 17 ans que cette guerre est terminée et le travail de déminage demeure encore considérable.
Oui, on a calculé que au rythme actuel, en fait, le déminage peut durer encore 525 ans.
Environ 525 ans.
Oui, enfin, au rythme actuel. Compte tenu du nombre de mines qui ont été disséminées dans le pays, mais c'est un travail qui est extrêmement difficile. difficile. Il suppose une formation déjà de personnes, il suppose avoir des volontaires, même si on est très bien payé pour le faire. C'est un métier extrêmement dangereux, bien sûr, et donc extrêmement long. Les mines ont été disséminées partout dans les champs, les forêts, sur les routes et aux abords des routes. Et par conséquent, en fait, ça immobilise un actif qui est la terre, tout simplement.
Ça neutralise des territoires agricoles gigantesques.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Sur cette question, alors il y a effectivement le travail de déminage qui est important avec Ndonale Okila, mais il y a plus généralement la nécessité de reconstruire les infrastructures. Et je voudrais qu'on parte au Kosovo, où le pont de la rivière Sitnica, qui avait été détruit en 1999, n'était toujours pas reconstruit 9 ans plus tard.
Nous avons des terres de l'autre côté. En tout, les Serbes de Primorje ont 200 hectares de terrain du côté albanais. Nous ne pouvons plus y aller depuis 9 ans. Tous nos champs sont à l'abandon. Je pense que les Albanais font exprès de ne pas le reconstruire.
Avant que le pont ne soit détruit, Pristina n'était qu'à 17 km. Maintenant, on est obligé de faire un détour incroyable. Les gens d'ici travaillent tous, ou presque, à Pristina et mettent environ 2 heures de plus par jour pour aller et venir. Ce sont les Serbes qui ont détruit ce pont. C'est à eux de le reconstruire.
À notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose. Il faudrait qu'on puisse compter sur la bonne volonté des deux côtés, et ce n'est pas le cas.
Voilà un reportage qui montre, avec Ndonale Okila, l'importance de la reconstruction des grandes infrastructures pour relancer l'économie et recréer du lien social.
Oui, effectivement. Et ce reportage est assez regrettable parce que il montre ici les défaillances du système. Par exemple, pour ce pont et pour bien d'autres infrastructures, les financements parfois sont prévus. Seulement, la corruption endémique qui caractérise ces sociétés font que les réalisations ne voient jamais le jour. C'est assez regrettable de constater cela. Alors, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour essayer de lutter contre cette corruption, mais il se trouve que c'est dans des États qui sont véritablement gangrénés, au point où surmonter le problème, ça devient comme un choc de titans.
Et avant même la reconstruction, il y a un travail de déblayage à faire, et ça c'est un travail qui est souvent sous-estimé, alors même qu'il demande des moyens considérables, à la fois en main-d'œuvre, en matériel et en temps, Hervé Hutin.
Oui, c'est bon. C'est un aspect, mais prenons ce qui s'est passé à New York en 2001. Il a fallu 9 mois à la première puissance économique mondiale, qui est dotée de toutes les capacités en termes de matériel et de compétences, pour déblayer le World Trade Center. Et on s'étonne qu'à Haïti, on ait mis à que 2 ans après, je me souviens en 2012, on se plaignait que tout ne soit pas déjà résolu. Alors qu'on est dans un des pays les plus pauvres du monde, que tout le matériel, le peu de matériel qu'il y avait a été écrasé par les effondrements et que beaucoup de gens sont morts. Donc il faut franchement, enfin une variable qui n'est jamais prise assez en considération dans les plans de reconstruction, c'est le fait que ça va durer au moins, il faut partir sur 10 ans minimum. C'est pas en 2 ans ou 3 ans, c'est pas un plan de redressement pour lutter contre le chômage. On est à remonter, en fait, le prix de la paix, le temps que ça prend, c'est quelque chose qui est considérable.
Et dans le plan de reconstruction, il faut prendre en compte et en considération les vaincus et savoir comment les réintégrer au tissu économique. Dès 1920, Keynes estimait qu'il ne fallait pas faire peser un fardeau trop lourd sur le pays vaincu, ou alors on risquait de provoquer un nouveau conflit, ce en quoi il ne s'est pas trompé. En l'occurrence, le poids des réparations imposées à l'Allemagne, on s'en souvient, a joué un rôle dans la survenue du deuxième conflit mondial. Mais alors, est-ce que les leçons ont été tirées, selon vous, Hervé Hutin? On peut peut-être citer la première guerre du Golfe, puisqu'il y a eu des réparations qui ont été imposées à l'Irak à ce moment-là, qui avait envahi le Koweït en 1990. Mais on estime que ces réparations, alors je me tourne vers vous, Ndonale Okela, ont été plutôt proportionnées, en tirant des leçons justement de ce qu'avait pu constater Keynes dès les années 20.
Oui, mais ce qu'on peut dire en ce qui concerne les reconstructions économiques actuelles, c'est que ces considérations sont sérieusement prises en compte, notamment dans le cadre du programme désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens combattants. Et nous avons vu que dans certains pays africains, notamment, il y a même des commissions de réconciliation entre les peuples, de telle sorte que les antagonismes soient balayés et que le peuple puisse, l'ensemble du peuple, hein, puisse travailler main dans la main pour pouvoir procéder au développement économique du pays. C'est l'un des problèmes que l'on constate aujourd'hui en Syrie, par exemple. En Syrie, le régime met en place une forme de politique de démographie sélective, dans le sens où il privilégie les partisans du régime, hein, au détriment des autres populations, les sunnites. Hein, les alaouites sont privilégiés. Aujourd'hui, ils bénéficient des terres et des habitations qui appartenaient aux opposants au régime. Et cette politique est exacerbée par le régime en place. Donc, ce qui fait qu'il est difficile de penser à une réconciliation, à une solution politique en ce moment en Syrie.
Vous parliez des commissions de vérité et réconciliation. C'est ce qui a été mis en place, par exemple, au Rwanda, voilà, au lendemain du génocide. Aujourd'hui, alors sans faire de lien trop rapide, mais aujourd'hui, on sait que le Rwanda a une croissance économique parmi les plus fortes du continent africain. Quel lien on peut éventuellement établir entre ces deux phénomènes, Vinck Donnelly-Okilla?
Alors, le lien, il est tout d'abord psychologique. Lorsque les plaies sont pansées, forcément, on a plus de volonté d'aller de l'avant. Et en même temps, ça mobilise, hein, de la main-d'œuvre pour pouvoir justement reconstruire le pays. C'est une étape importante. C'est une étape importante parce que cela permet simplement de pacifier le pays. Alors, le Rwanda, c'est certainement le modèle, mais il y a aussi d'autres pays comme au Cambodge où ces commissions ont été mises en place et qui également ont porté des fruits.
Je voudrais revenir sur le rôle de ce que l'on appelle peut-être à tort la communauté internationale dans l'aide au redressement économique dans ces pays. Hervé Hutin, le terme de communauté internationale ne vous plaît pas trop? C'est un terme qui vous paraît trop flou?
Bon, c'est parce que le terme a été critiqué à juste titre comme ne recouvrant qu'une réalité qui varie en fait selon les circonstances.
Et cette réalité, justement, quelles sont ces organisations internationales qui sont à la manœuvre?
Parlons plutôt de dispositifs d'aide internationale qui se mettent en place et dans lesquels on observe dans tous les conflits, dans toutes les sorties de conflits aujourd'hui, depuis 20 ans maintenant, les mêmes acteurs qui reviennent et qui opèrent souvent de la même façon. D'abord, une opération avalisée par le Conseil de sécurité de l'ONU de maintien de la paix qui va drainer avec elle les agences de l'ONU, Haut Commissariat réfugiés, Programme alimentaire mondial, UNICEF, FAO, etc. Et ensuite, les donateurs multilatéraux, Banque mondiale, FMI, ou régionaux, Banque africaine de développement, Banque islamique de développement, etc. Vous allez avoir les donateurs bilatéraux, État à État, avec les grandes agences, USAID, l'AFD, etc.
Mais ce sont des programmes qui sont parfois vécus comme trop intrusifs, comme en contradiction avec la souveraineté des États, Vinck Donnelly-Okilla?
Alors, cela dépend. Pour ce qui est du volet aide financière ou aide internationale, on va dire que l'intrusion, elle est plutôt modeste. Elle est plutôt modeste parce que ces entités-là qui se regroupent à l'occasion des conférences internationales pour la reconstruction, hein, il faut le dire, c'est à ce moment que cette communauté internationale, donc composée des États d'abord, des organisations internationales, notamment des institutions financières internationales, et aussi des entreprises, il ne faut pas les oublier, parce que les entreprises participent activement au processus de reconstruction économique. Alors, pour ce qui est de l'aide internationale, le problème, c'est la conditionnalité. Parce que les institutions financières internationales, lorsqu'elles viennent aider un pays à se reconstruire, forcément, elles vont, si vous voulez, suggérer une forme de politique économique qu'elles estiment la plus efficace.
Ça a été le cas au Kosovo, par exemple. L'Union européenne a accompagné un programme de privatisation des compagnies publiques. Alors, effectivement, est-ce que l'aide s'accompagne nécessairement de réformes économiques qui n'ont pas nécessairement été décidées par l'État en question?
Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas où l'État dispose d'autorités locales légitimes. Et puis, il y a le cas où il n'y a pas d'autorité du tout. Alors, on va donc prendre deux exemples. Par exemple, au Liberia, il y a un président en place, hein, même s'il est à ce moment un tout petit peu contesté, mais il est en place. Donc ce président ou cet exécutif, de manière générale, est habilité à engager l'État. Engager l'État auprès des institutions financières internationales. Donc dans ce cas de figure, on va dire que l'influence ou l'impact de l'aide ou de la conditionnalité est plutôt moindre parce que la décision finale revient aux institutions étatiques. Elles peuvent accepter ou refuser l'aide. Au Kosovo, c'est différent.
Mais je vous laisse finir.
Oui, au Kosovo, c'est différent parce qu'il n'y a pas d'autorité étatique, il n'y a pas d'autorité locale. Le Kosovo a été administré par une administration internationale et c'est cette dernière qui a été amenée à contracter, à conclure des accords d'aide financière internationale pour le compte du Kosovo. Donc la situation est complètement différente parce qu'on voit que ça remet en cause les questions de souveraineté.
Mais vous avez raison de dire qu'effectivement, tout commence par l'autorité étatique.
Il y a eu un accord de paix qui a été signé le 6 février dernier. Il commence à être mis en œuvre, c'est encourageant. C'est le résultat d'une coopération exemplaire entre les Nations Unies et l'Union africaine. Il y a des avancées, notamment dans le domaine du désarmement, de la démobilisation et réintégration. Deuxièmement, beaucoup de choses restent à faire. On a les élections qui auront lieu en Centrafrique en 2020, fin 2020 et 2021, présidentielles en 2020. Législative en 2021. Donc ça, c'est l'horizon. C'est très important pour passer à la phase suivante. C'est ce dont on va parler. Et dans ce contexte, on va s'apprêter à renouveler le mandat de l'opération de maintien de la paix, la MINUSCA. Pour nous, ce qui compte comme coordonnateur sur le dossier au Conseil de sécurité, c'est de donner à la MINUSCA les moyens de remplir sa mission, notamment pour préparer ces élections de 2020 et 2021.
Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, il était interviewé en octobre et depuis le mandat de la MINUSCA a été non seulement renouvelé mais également élargi. Ce que l'on observe ici, Hervé Hutin, c'est que en Centrafrique, l'enjeu est d'abord politique, ce sont d'abord ces élections avant de devenir un enjeu économique.
Oui, on pense souvent que les élections vont tout résoudre. En 2016, on attendait aussi des résultats, enfin en 2015-2016, et que tout allait bien, que tout irait bien ensuite. Et en fait, ça a certes fait progresser un consensus, mais les consensus en Centrafrique sont plutôt éphémères en fait. Quand on regarde la succession des accords de paix entre ceux de Libreville, les accords à Rome en 2017, l'accord de Khartoum qui a été signé en février cette année.
C'était donc le huitième accord de paix, effectivement, celui qui a été signé en février dernier.
Donc, ces accords, en fait, 15 jours après, un gouvernement a été formé sur la base, effectivement, d'une inclusion. Et dès le lendemain, ça ne satisfaisait pas certains des groupes rebelles qui étaient intégrés, les 14 groupes rebelles qui avaient négocié avec le gouvernement. Et l'accord avait déjà du plomb dans l'aile.
On attend trop des élections, Vindanale Okila, selon vous, ou est-ce que c'est normal d'attendre une stabilité politique avant de mettre en place un certain nombre de réformes qui permettent le redressement économique?
Alors, c'est un débat doctrinal, cette question, parce que en sciences politiques, notamment, il se pose la question de savoir quels sont les éléments, quelles sont les approches les plus appropriées pour pouvoir procéder à la reconstruction. Alors, certains mettent en avant effectivement les questions économiques. Lorsque l'économie marche, généralement tout marche. Mais ce n'est pas toujours évident. Malheureusement, il y a des contextes où la source même du problème est d'abord politique. Donc, par conséquent, peu importe les mesures que vous aurez à prendre, si les questions politiques ne sont pas réglées, je rebondis sur la Syrie par exemple, tant que les questions politiques ne sont pas réglées, la reconstruction en elle-même ne pourra pas commencer. Donc, quelque part, la dimension politique joue quand même un rôle important.
Et dans le cas de la Centrafrique, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que avancer des pions sur le front économique ne permettrait pas de commencer à régler le problème qui est aussi de nature politique, Hervé Hutin?
En fait, c'est ça le gros obstacle au retour à la paix, c'est d'agir simultanément sur les 5 piliers interdépendants de la paix. Donc par conséquent, il faut à la fois aller dans le sens économique, mais là on le voit par exemple avec la Centrafrique, c'est un très bon exemple, ça ne marche pas au niveau de la réconciliation politique, et si on veut se lancer en fait dans des programmes économiques de redressement alors qui dépassent simplement la simple urgence, eh bien en fait le succès de ces programmes se trouve compromis parce que les routes sont régulièrement coupées par des barrages qui empêchent les marchandises de pouvoir circuler. Calais, il y a des opérations de pillage et des menaces sur les personnes. Et donc, en fait, on est dans un climat de peur à nouveau
empêche tout avenir voilà. Politique comme économique. Mais alors, on disait tout à l'heure que l'aide internationale pouvait être vécue éventuellement comme intrusive si elle était soumise à un certain nombre de conditions. Ce qu'on a observé aussi en Irak et en Afghanistan, Vigdenen Alaoukila, c'est que le budget de la guerre militaire, avait été largement sous-estimé, alors pour ce qui est de l'Irak à l'époque par George Bush, car il n'avait pas pris en compte les coûts de l'occupation, de maintien de la paix et de la reconstruction. Alors, ce qu'on voit, c'est aussi cette ambivalence de que ce soit le même acteur qui mène la guerre et s'occupe ensuite de la reconstruction.
Oui, c'est une pratique courante. Il faut, si vous voulez, maquiller les chiffres pour que l'opinion publique, notamment l'opinion internationale, ait l'impression qu'il y a des véritables avancées dans le processus de reconstruction. Donc, pour ces raisons, généralement, les acteurs de la reconstruction, principalement les États, lorsqu'ils sont à l'origine des problèmes de reconstruction, ont tendance donc à, si vous voulez, montrer le bon côté et en même temps mettre sous la table les dépenses effectuées qui parfois sont très très très, très importantes. Ouais.
On arrive presque au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être sur donc le redressement économique. Hervé Hutin, est-ce qu'il n'y a pas encore des leçons qui doivent être tirées? Est-ce que ça ne passe pas par un travail de recherche en économie? Est-ce qu'on ne manque pas aujourd'hui de travaux autour de ces questions?
Il y a beaucoup de travaux qui sont menés, notamment par des organisations internationales comme la Banque mondiale. Mais effectivement, ce qu'il y a, c'est qu'on commence... il y a des idées qui sont quand même déjà éprouvées. Par contre, en fait, il faudrait les généraliser. Des façons de faire ou des méthodes comme par exemple l'approche... dite de moyens d'existence, en termes de moyens d'existence, pour diagnostiquer une situation.
Donc oui. Encore beaucoup de progrès à faire, peut-être sur le plan économique, mais aussi sur le plan juridique, Vigdenen Alaoukila.
Ah oui, sur le plan juridique, le chantier reste ouvert, parce que la reconstruction économique, c'est justement l'un des terrains qui pose le problème de manière criarde, le problème du respect de la souveraineté des États, l'autodétermination des peuples, de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Parce que la reconstruction économique, c'est d'abord la souveraineté sur les ressources naturelles. Et lorsque la reconstruction est menée par des autorités internationales, ces dernières ne prennent pas toujours en compte les intérêts des populations sujettes à reconstruction. Donc cela, effectivement, cause des gros problèmes juridiques, oui.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
La pression augmente sur Airbnb, la plateforme de location en ligne qui vient de décrocher un partenariat avec les Jeux Olympiques se heurte au monde de l'hôtellerie et à la ville de Paris.
Oui, c'est même la colère du côté des hôteliers français dont la principale fédération annonce la suspension de sa participation au comité des Jeux Olympiques 2024, indignée de la visibilité donnée à la plateforme accusée par une autre fédération de concurrence déloyale. Les professionnels sont d'ailleurs appuyés par la ville de Paris, elle-même en litige judiciaire avec Airbnb, Anne Hidalgo, dans une lettre au président du CIO, jugée ainsi il y a deux jours normale la réaction des hôteliers. Elle pointait la déstabilisation, raréfaction et renchérissement des 400 000 locations parisiennes par les 100 000 locations Airbnb. De son côté, l'organisation des JO de Paris plaide de sa bonne volonté en affirmant que 40 000 chambres d'hôtels ont déjà été réservées par elle. Côté hôtellerie, c'est toujours difficile, effectivement, de mesurer la concurrence avec des logements privés, mais cette concurrence est réelle, dit Pierre Madec, économiste à l'OFCE.
En effet, il y a ce qu'on peut appeler une concurrence. Est-ce qu'elle est déloyale ou pas? D'un point de vue fiscal, elle est un peu déloyale parce que les revenus, donc les loyers ou les nuitées sont pas imposés du tout de la même façon entre Airbnb et les hôteliers, ça c'est une réalité. Ce qu'on observe, c'est en effet une concomitance entre le développement de l'offre Airbnb et la baisse des nuitées hôtelières. Alors il faut savoir que tous les segments du marché hôtelier sont pas concernés. C'est-à-dire que le grand luxe, par exemple, est assez peu impacté par le développement du marché Airbnb. Les hôtels très abordables sont également peu impactés. En réalité, c'est plutôt la gamme des 3-4 étoiles qui, elle, voit le nombre de ses nuitées fortement réduit avec le développement d'Airbnb, parce que c'est sur ce segment-là que se positionnent les logements Airbnb, notamment parisiens. Donc il y a aussi aux hôteliers à s'adapter à cette concurrence-là, en montant en gamme, en proposant des services qui ne sont pas proposés par Airbnb. Mais en tout cas, cette concurrence, elle est en effet réelle. La baisse des nuitées hôtelières, elle est réelle aussi, à savoir jusqu'à quand. On sait que la mairie de Paris réfléchit à un durcissement de la réglementation et de la législation des mises en location sur des plateformes type Airbnb. Donc voilà, mais après, les chiffres sont là. Ouais.
L'INSEE estime à 20% la part des nuitées prises en France par Airbnb l'année dernière, offres professionnelles comprises, et au niveau politique, on presse pour une nouvelle régulation.
Oui, déjà, depuis le début de l'année, Airbnb est tenu de ne pas publier d'annonces qui dépasseraient les 120 jours de location, et 18 villes, dont Paris, ont mis en place un numéro d'enregistrement unique. Paris est également en litige à la Cour de justice européenne. L'Union européenne, elle-même, partie, puisqu'elle a obligé Airbnb cet été à fournir également plus d'informations. Et vendredi, des représentants de Paris, Barcelone et Berlin demandaient plus à la présidente future de la Commission européenne, c'est-à-dire changer les règles, puisque les locations Airbnb sont régies par la directive commerce électronique.
On passe aux brèves, au chapitre de l'ubérisation. Uber, justement, lui aussi dans le viseur d'ONG européenne en raison de la pollution qu'il provoque.
Oui, 515 kilotonnes d'émissions de gaz carbonique supplémentaires par an, c'est l'équivalent de 250 000 véhicules. C'est ce qu'ont calculé des ONG françaises et britanniques à partir de l'activité Uber à Londres et Paris. Paris, où plus de 90% des véhicules enregistrés Uber roulent au diesel, ces particules très fines et très mortelles.
Et pour finir, un autre pari qui semble réussir cette fois pour les premières cotations de la Française des Jeux, la plus grosse introduction en bourse depuis Natixis en 2006.
Et l'action gagne déjà à peu près 15%, un petit peu moins, à un peu moins de 3 euros de plus actuellement que les 19,90 euros d'introduction à 9h ce matin. En vendant ses parts, l'État remportera bien plus de 2 milliards d'euros et touchera la rente annuelle de 3 milliards et demi d'euros. Un succès pour les marchés boursiers aussi qui termineront l'année un peu regonflés avec un total d'opérations à peu près 3 milliards d'euros, et succès du test apparemment pour l'épargne populaire avec 500 000 petits épargnants qui, selon Bruno Le Maire, marquent la réconciliation des Français avec le marché, même si en valeur et nombre de petits épargnants, cette privatisation reste bien en deçà des plus grandes privatisations françaises de ces 20 dernières années.
L'habitude, un titre d'Isaac Delusion, extrait de leur dernier album Uplifters. Merci beaucoup Hervé Hutin et Vigne Denaleokila de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, ce sera le temps du débat économique. Comment recréer des territoires industriels dans l'Hexagone? On en parle avec Nadine Levrato, Max Blanchet et Anne-Sophie Bellèche. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.